Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je suis là au cours des 30 prochaines minutes pour vous accompagner au cours de cette émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Et je suis là aujourd'hui extrêmement bien accompagnée. On vous propose aujourd'hui une discussion autour de la fibrose kystique, une maladie qui, vous le savez peut-être déjà, est génétique, encore mortelle, encore grave et assez imprévisible, qui touche ici au Québec environ 1300 personnes. Des enfants, bien sûr, hein, quand on pense à la fibrose kystique, on l'associe souvent à des enfants, mais qui touche de plus en plus d'adultes. Et ce, grâce aux découvertes scientifiques là, des 50 dernières années à peu près, qui ont permis d'allonger l'espérance de vie des personnes atteintes de la maladie, mais aussi leur qualité de vie. Et tout ça, ça suscite beaucoup d'espoir. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui, de cette réalité, avec Renaud Robert, lui, chercheur et directeur du Centre de recherche translationnel, j'espère le dire comme il faut, me corrigera tout à l'heure, sur la fibrose kystique et ça à l'Université McGill. Tommy Richard Leboeuf-McGregor, lui, coordonnateur de Vivre avec la fibrose kystique, et Camille Papineau-Moret, elle qui a 15 ans et qui est atteinte de fibrose kystique. Je vous les présente dans quelques instants. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Merci d'être là. Tommy Leboeuf, ouais. Tommy Richard Leboeuf-McGregor, je vous appelle comment aujourd'hui là, pour raccourcir le tout?
Tommy Richard, ça devrait suffire.
Vous êtes, comme je le disais, coordonnateur de Vivre avec la fibrose kystique. Ce que j'ai oublié de dire également, atteint de fibrose kystique, vous avez été greffé, on en parlera un petit peu plus tard de ce que ça a pu changer dans votre vie. Camille, 15 ans, Camille Papineau-Moret. Je pense, Camille, que tu es la plus jeune personne que j'ai interviewée dans ma vie jusqu'à maintenant.
Ah oui.
Donc, tu feras partie de mes records. Merci d'être là aussi. Et Renaud Robert, translationnel.
Oui, c'est ça.
Donc, je l'ai quand même, j'arrivais à le dire. Première question peut-être pour vous, Renaud, parce que je le disais tout à l'heure, les pas de géant de la science, ça a permis beaucoup de choses en ce qui a trait à la fibrose kystique. Le Québec semble être un leader en matière de recherche, et ce, au point de vue mondial. C'est sûr que la fibrose kystique, ça reste une maladie qui est très complexe, qui est héréditaire. On table sur quoi en matière de recherche en ce moment?
Je dirais qu'on travaille toujours sur la recherche de traitements pour avoir un traitement curatif. Malheureusement, on a des traitements des antibiotiques, on a des traitements gastro-intestinaux. On travaille pour l'instant, on traite la maladie sur ses conséquences. Mm-hmm. Ce qu'on voudrait aller chercher maintenant, c'est plus les causes de la maladie. Et je vous en dirai certainement un petit peu plus tout à l'heure en vous parlant de la protéine CFTR et comment on peut aller moduler cette protéine pour améliorer les symptômes de la maladie.
Mm-hmm. Donc, plus au point de vue des traitements, comment améliorer la qualité de vie, l'espérance de vie. Et ça a beaucoup changé. Quand on pense que dans les années 60, les gens qui vivaient avec la fibrose kystique n'atteignaient pas, perdaient la vie là, à 4 ou 5 ans maintenant, elles peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ça a changé, ça, le visage de la fibrose kystique. Tommy, je pense que vous pouvez nous en parler, vous qui travaillez avec des adultes atteints de la maladie.
Oui, en fait, le visage de la fibrose kystique a énormément changé, comme vous disiez plus tôt. Il y a de plus en plus de gens qui sont adultes avec la fibrose kystique, et non seulement il y en a de plus en plus, mais on est majoritaire. Donc, 60 % de la communauté fibrose kystique a plus de 18 ans. Et quand on parle de l'âge de survie, le 50 ans, c'est même pas une espérance de vie, c'est un âge médian. Donc, on a fait des progrès vraiment énormes. Donc, évidemment, il en reste toujours des gens qui vont décéder plus jeunes, selon la gravité de la maladie, mais de plus en plus, c'est une maladie qui n'est plus qu'infantile, mais qui est également du côté des adultes.
Et j'imagine que ça change les préoccupations.
Énormément. Parce qu'en fait, maintenant, les personnes qui ont la fibrose kystique font face à des défis que l'ensemble de la population en général va devoir subir. Donc, les jeunes, beaucoup vont aller faire des études postsecondaires, l'université. Il y en a qui vont fonder des familles maintenant, tu veux aller travailler. Donc, c'est sûr que les préoccupations sont vraiment à un niveau supérieur par rapport à avant, où c'était des jeunes qui finalement allaient passer leur vie en entier chez leurs parents et ils n'allaient pas plus loin que ça.
Camille, vous... ou toi, tu habites chez tes parents, bien sûr, dans cette routine-là familiale. Et la maladie, la fibrose kystique, ça entraîne aussi une lourde routine. Ça se passe comment, le quotidien?
Bien, en fait, c'est sûr, c'est beaucoup de responsabilités. Et une routine, bien, ça ressemble à beaucoup de médicaments, des traitements, une inhalation, du gavage, pour ma part.
Il y a le clapping aussi, hein?
Oui. Ben, en fait, quand j'étais petite, je pratiquais le clapping.
C'est mais quoi là, ça, hein, le clapping, Camille?
Ben, en fait, c'est un traitement pour décoller les sécrétions dans les poumons. Okay. Et dans le fond, c'est pour taper. En fait, on tape sur l'enfant, sur les poumons de l'enfant, et ça fait décoller les sécrétions. Mm-hmm. Mais moi, maintenant, je suis rendue trop vieille pour ce traitement, donc on l'a remplacé par un autre qui s'appelle le PEP. Mm-hmm.
Les traitements, donc, sont sans cesse en évolution, Renaud. Bon, on pourrait peut-être parler un petit peu des impacts. Évidemment, quand on pense fibrose kystique, là, souvent, on le sait, c'est atteinte faculté respiratoire, ça attaque les poumons. Qu'est-ce que ça touche aussi chez les personnes touchées?
En fait, je dirais que ça touche plusieurs organes qui sont nécessaires à la survie, mais c'est vrai que ça s'attaque plus particulièrement aux poumons et au système digestif. Au niveau du poumon, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on a une petite protéine qui s'appelle CFTR qui ne fonctionne plus au niveau des cellules épithéliales. Et malheureusement, le chlore ne passant plus, on va avoir une déshydratation en fait, de la surface des cellules épithéliales qui tapissent en fait, les poumons. Et c'est pour ça qu'on va avoir une accumulation de mucus dont Camille nous parlait. Et en fait, l'accumulation de mucus, c'est tout simplement une niche à bactéries.
Ouais.
Donc les bactéries vont vraiment venir envahir cette zone. Et un cycle d'infection, inflammation va s'en suivre.
Et de là, la prise d'antibiotiques plutôt fréquente.
Exactement. En fait, pour lutter contre les différentes souches de bactéries, parce qu'il n'y a pas qu'une souche qui se retrouve... chez les patients fibrose kystique, on est obligé d'avoir un panel d'antibiotiques. Mm-hmm. C'est pour ça que Camille parlait d'un lourd traitement et d'une lourde responsabilité, parce qu'il faut prendre absolument ces médicaments pour pouvoir améliorer ces infections et les diminuer.
Lourde responsabilité, Camille, est-ce qu'on se lasse des fois de cette routine-là? Est-ce qu'on est tanné de toujours être précis, d'avoir cette discipline-là de la prise des médicaments ou des traitements?
Ben c'est sûr que je vous mentirais si je vous disais que j'étais pas tannée de ça. Mais ben c'est sûr que c'est tannant, mais on se dit que c'est juste pour le mieux qu'on fait ça, puis c'est pour nous, pour aller mieux. Puis c'est pas mal ça.
Tommy Richard, la médication ne cesse pas, même quand on est greffé comme vous.
Évidemment, parce qu'on veut conserver notre greffe, on veut pas la perdre, et il y a le risque de rejet qui ne partira jamais. Donc, bien entendu, faut prendre des anti-rejets aux 12 heures, c'est assez fixe, on peut pas s'en libérer en quelque sorte. Mais je dirais, ce qui est quand même le bon côté là-dedans, c'est qu'on a quand même une certaine habitude dans la prise de médication quand on a la fibrose kystique. Donc, après la greffe, c'est pas un changement d'habitude, donc c'est déjà ancré en nous, et c'est pas étranger au fait... maintenant, les greffés pulmonaires avec la fibrose kystique ont un taux de survie légèrement plus élevé que les autres greffés pulmonaires parce que justement, on est habitué avec cette médication-là, elle continue. Et on a connu c'est quoi là, avant la greffe, donc on veut pas retourner en arrière, on veut pas perdre ce qu'on a gagné. Donc évidemment, on continue la médication qui est vraiment moins lourde. Elle est peut-être nombreuse, mais c'est moins lourde. On n'a pas des traitements par intraveineuse à faire, on n'a pas des traitements respiratoires à faire, donc c'est peut-être plus de pilules, mais en même temps, c'est ça qui nous permet d'être en forme, de continuer une vie normale. Donc,
est-ce que vous vous sentez privilégié parce que je regardais les chiffres de Transplant Québec en 2011, le délai moyen était de 526 jours pour obtenir une greffe de poumon. Vous l'avez obtenue. Bon, j'imagine on est heureux d'avoir été greffé. En même temps, oui, il y a des impacts. Il faut continuer la médication, comme on disait. C'est une chance pour vous?
C'est une chance parce que, oui, on est de plus en plus nombreux à recevoir la greffe, mais il y en a également à côté qui vont mourir. Et on en a parlé un peu plus tôt avant d'entrer en onde. La communauté fibrose kystique, c'est beaucoup de gens qui se connaissent entre eux. Et quand on arrive au moment de la greffe, bon, on est encore plus tissé serré entre nous, ceux qui attendent. On connaît un peu qui est avant nous, qui est après. Et nécessairement, on va tous en connaître au moins un ou deux qui va décéder en chemin. Et c'est pour ça aussi, moi, après la greffe, je me suis engagé beaucoup pour le don d'organes, en faire la promotion, parce que il faut pas arrêter de faire la promotion du don d'organes parce qu'on perd encore des gens. Et c'est pas normal qu'en 2015, on en perde parce qu'on a la possibilité au Québec d'avoir un nombre suffisant de donneurs si on travaillait bien le terrain. Là. Si on changeait nos méthodes, on les améliorait, on pourrait également devenir un leader en don d'organes. Donc, oui, je me sens privilégié, mais en même temps, j'oublie pas que j'aurais pu y passer moi aussi. Là. Quand j'ai eu ma greffe, il me restait plus grand temps à vivre. Puis la plupart des gens qui l'obtiennent maintenant sont dans des conditions assez déplorables l'an dernier. Donc, faut pas continuer. Faut continuer la lutte et pas lâcher là-dedans. Parce que oui, j'ai été privilégié, mais je le sais qu'il y en a derrière de moi qui, eux, n'ont pas eu cette chance-là. Puis je veux que tout le monde puisse avoir la chance que j'ai, que j'ai eu de l'avoir. Là.
Lorsqu'on se parlait, Renaud Robert, vous me parliez de votre volonté d'être près des gens qui vivent avec la fibrose kystique en tant que chercheur, d'être en contact avec une communauté qui est tissée serrée. Est-ce que ça amène des responsabilités?
Je dirais que oui, c'est d'énormes responsabilités. C'est toujours difficile de parler avec... Quand on est dans un laboratoire, on est des fois loin. Et peut-être qu'on veut être loin pour être rationnel dans la façon dont on a de travailler. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Marc à Fibrose Kystique Québec, j'ai découvert beaucoup de personnes très passionnées et passionnantes. Et j'ai l'occasion de rencontrer des gens comme Camille et d'autres. Et c'est toujours un plaisir de partager ce qu'on fait en recherche. Et j'encourage vraiment les gens à parler avec les chercheurs pour mieux comprendre la maladie et pour aussi donner un petit peu, je dirais, ça donne aussi l'espoir. Et on peut voir les effets sur les gens sur le terrain.
Oui, parce qu'il y en a de l'espoir.
Bien sûr, il y a beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on a parlé des 25 ans de la découverte du gène l'année dernière. Je pense qu'en 25 ans, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Maintenant, on a une molécule qui est arrivée sur le marché depuis environ 2 ans par l'entreprise Vertex, le Calideco. Malheureusement, cette molécule ne touche que 4% des patients.
Et c'est extrêmement cher. On parle de 300 000 $ par année pour avoir les pilules. Et là, je vous interromps, je reviens à Tommy Richard. L'impact financier, et ça pourrait aussi être pour Camille, bien sûr, Camille, ta maman est présente, tu as la famille, mais il y a des coûts à la maladie, bien sûr. On fait comment pour défrayer tout ça?
Mais en fait, à mon association, on a fait un peu une étude il y a quelques années pour essayer de voir c'était quoi les impacts financiers auprès de la communauté fibrosistique. Et la très grande majorité vivent sous le seuil de la pauvreté. Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça commence très tôt. Il y en a plusieurs qui vont subir des hospitalisations assez fréquentes dans leur jeunesse. Donc, ils n'auront pas la possibilité de faire des études post-secondaires. Donc, ils vont les faire peut-être plus tard, mais ça va arriver. C'est pas au début de leur vie, c'est pas le même parcours que tout le monde. Et une fois qu'on est rendu là, il y en a qui vont subir la grève, d'autres qui ne l'auront pas. Beaucoup vont se retrouver invalides, vont être sur l'aide sociale. Et c'est difficile à partir de là de dire, moi, je vais faire mes études quand tu es sur l'aide sociale. Des fois, il y a des contraintes aussi qui sont un peu plus, des administratives qui nous empêchent de poursuivre. Donc, il y en a qui n'auront jamais la possibilité de poursuivre ces études-là. Donc, évidemment, tu te retrouves dans un emploi à temps partiel. Et un emploi à temps partiel, ou à salaire minimum, c'est pas les meilleurs emplois pour notre santé non plus. Donc, beaucoup vont s'épuiser, pourront pas retourner. Donc, heureusement, au Québec, on a quand même un bon système avec la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, les médicaments sont très accessibles pour nous par rapport à d'autres pays. Donc, au moins, on est avantagé par rapport à ça. Mais je dirais, plus socialement parlant, évidemment, il y en a beaucoup qui vont demeurer invalides à vie. Ils vont avoir besoin du soutien financier de leur famille, de d'autres organismes pour les aider là-dedans. Donc, c'est sûr que l'impact est très grand pour beaucoup de fibroses. Oui.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette compagnie-là tente là, de développer le médicament aussi pour des fumeurs. C'est ce que je lisais, qui pourrait peut-être un petit peu réduire les coûts. Vous n'en êtes pas, certain, Renaud
Robert?
Si.
Non, c'est une très bonne étude. Je ne suis pas sûr que ce soit le propos aujourd'hui, mais c'est sûr que oui, il y a des choses à faire. Le groupe de recherche qui est en fait sous l'égide du docteur Anne Rahan, pour lequel je travaille, on est encouragé justement par des coûts comme ça, parce que nous, notre travail, c'est justement d'aller trouver d'autres molécules. Et notamment, nous, on essaie de travailler sur des molécules qui vont combiner avec ce qui existe déjà sur le marché pour pouvoir faire diminuer ces coûts-là sur le marché. Plus il y a de gens dans la compétition, plus ça va diminuer. Donc, il faut vraiment continuer la recherche sur les médicaments.
Oui. Pour revenir avec Camille, tout à l'heure, on parlait de communauté serrée. Est-ce que ça t'a permis de développer des amitiés avec d'autres personnes qui vivent avec la fibrose kystique et qui ont ton âge à peu près?
Ben oui, c'est sûr. Ben, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai pu discuter avec des personnes aussi atteintes de fibrose kystique, mais on peut malheureusement pas se voir puisqu'on pourrait se transmettre des bactéries.
Ah oui?
Ouais, donc ça, c'est un petit peu un effet négatif, mais mm-hmm. on peut quand même se parler et discuter de comment on arrive à faire nos traitements puis quels trucs on utilise. Donc.
Est-ce que c'est important pour toi d'avoir cet échange-là?
Oui. Ouais. Pour moi, ça m'aide beaucoup puisque ben, mes amis ne comprennent pas à 100% ce que je vis. Donc, d'en parler avec quelqu'un qui comprend, c'est sûr que moi, ça m'aide beaucoup.
Tu dis que tes amis ne comprennent pas toujours ce que tu vis, donc c'est pas toujours évident de leur en parler à l'école, par exemple.
Non, ben c'est sûr qu'ils vont comprendre ce que je leur dis, mais quand on n'est pas dans la situation, c'est difficile de se mettre dans la peau. Mm-hmm. C'est pas mm-hmm. toujours évident, mais ça va mieux de plus vieillir.
Mm-hmm. Peut-être parce que tu arrives aussi à très bien en parler et on l'entend aujourd'hui. Tommy Richard, vivre avec la fibrose kystique, ça sert aussi à ça, d'échanger sur les difficultés au quotidien.
Oui, et en fait, mais alors, c'est pour ça qu'on a été fondé, en fait, il y a 30 ans. On va avoir 30 ans cette année. C'est qu'on est arrivé avant les réseaux sociaux aussi. Là. À l'époque, les gens se parlaient, on ne pouvait pas vraiment s'encontrer encore, donc c'était difficile. Chacun était isolé dans son coin. Il y avait de plus en plus de personnes qui arrivaient à l'âge adulte et qui se retrouvaient démunies face aux situations devant lesquelles ces personnes-là se retrouvaient. Donc, mais on est toujours utile aujourd'hui, là, encore plus que jamais, parce que justement, quand les gens ont des questions là, sur l'aide gouvernementale, qu'on peut. Les gens sont un peu perdus. Comme je disais, il y en a qui ne se sont pas rendus aux études postsecondaires. Et je ne le dis pas de façon péjorative, mais ça fait en sorte qu'il y a des fois des gens qui peuvent un peu moins se débrouiller dans tout cet appareil-là, qui ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, nous, on est là. On est composé uniquement de personnes qui sont atteintes de la maladie, donc qui sont passées par là. On comprend la situation. On fait beaucoup de référencements pour de l'aide psychologique, bourse d'études, panier de Noël. On essaie d'occuper le plus possible le terrain dans tous les aspects de la vie des personnes qui sont atteintes de fibrose kystique. Et notre mandat ne cesse pas de s'élargir parce que justement, en plus, il y a de plus en plus de gens qui atteignent l'âge adulte. Donc, on a de plus en plus de membres, on a de plus en plus de gens à défendre là-dedans. Et les besoins sont grandissants parce que, oui, on vit de plus en plus longtemps, mais en vivant de plus en plus longtemps, ça amène aussi d'autres problèmes. Il y a d'autres, comme par exemple le diabète, l'ostéoporose, qui sont reliés à la maladie. Donc, il y a toujours des défis auxquels les gens font face. Donc, c'est important qu'on soit là, puis on connaît bien l'appareil là-dedans. Donc, on peut les supporter, les guider dans toutes les épreuves auxquelles mm-hmm. ils vont devoir faire face.
On parlait tout à l'heure de l'atteinte aux facultés respiratoires, aux poumons. Il y a aussi tout le côté digestif, la nutrition. Moi, j'ai appris ça là, en lisant sur la fibrose kystique. Je ne savais pas qu'il y avait aussi une routine alimentaire à suivre. C'est quoi le lien entre la nutrition et la fibrose kystique, peut-être, Renaud Romère?
Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais ce que je connais par mes collègues, c'est il y a vraiment une mauvaise digestion, une malabsorption des graisses, en fait, due à l'absence de cette protéine au niveau pancréatique notamment et au niveau de l'intestin. Une malabsorption des matières grasses, des protéines et des glucides. Donc c'est pour ça qu'en fait, les personnes fibrosquistiques vont avoir besoin de recourir à beaucoup d'enzymes pancréatiques pour mieux favoriser la digestion. Mais aussi, je pense Camille, c'est ton cas de prendre des suppléments vitaminiques parce qu'on a aussi un régime alimentaire qui doit être aussi riche en calories et en protéines.
Et pourquoi tu dois prendre ces suppléments-là, Camille?
Parce que j'arrive pas à nécessairement les prendre par moi-même.
OK. Ton corps les absorbe pas. Merci d'avoir trouvé le mot. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas manger, par exemple?
Non.
Non? OK.
Non.
Tommy Richard?
Bien, évidemment, avant la greffe, on peut manger n'importe quoi et on nous encourage à manger le plus gras et le plus salé possible. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de diète autre que justement ne pas suivre les diètes normales.
De là, les chips à la crème sûre, Camille,
Mais ça change un peu après la greffe parce qu'il y a des médicaments qui entrent en interaction avec certains éléments. Donc, par exemple, je pense aux pamplemousses, des choses comme ça. C'est moins pire de plus manger de pamplemousse. Mais par contre, il faut faire attention aux intoxications alimentaires ensuite. Donc, aucune viande qui ne serait pas bien cuite. Les sushis, on oublie ça. Les buffets, on peut pas y aller. Viande froide, on oublie ça aussi. Donc, c'est évident qu'il y a plusieurs choses à penser par la suite, mais c'est rien à côté de qu'est-ce que qu'on aurait eu si on n'avait pas eu la greffe, justement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui.
Et pour ajouter là-dessus, je pense que les personnes fibrosquistiques aussi doivent augmenter leur teneur en sel. Donc, généralement, les sels d'aliments sont beaucoup plus salés. Ça, c'est dû justement à la perte d'une grande quantité de sel et de sodium dans la sueur.
Ouais.
C'est d'ailleurs un test pour diagnostiquer les...
Pour détecter, oui, fibrosquistique.
Camille, je le disais tout à l'heure, tu as 15 ans. C'est très jeune, mais on t'entend depuis tout à l'heure, tu connais bien ta maladie.
Ouais.
Est-ce que dès ton plus jeune âge, tes parents t'en parlaient? Est-ce que c'est important pour toi de connaître tous les ressorts de la maladie?
Oui, pour moi, mes parents ils ont toujours essayé de me faire comprendre pas mal ce que je vivais et de pas me le cacher. Puis pour savoir comme que je m'attende à... comme à tous les efforts que je vais devoir faire au cours de ma vie.
Mm-hmm.
Et ouais, pour moi, c'est vraiment important de comprendre mm-hmm. exactement dans quoi je suis en ce moment.
Ouais. Et de pouvoir l'expliquer comme on le disait tout à l'heure. Damien Richard, est-ce que le fait d'être touché par la maladie dès l'enfance, hein, souvent le diagnostic se fait assez rapidement, ça permet... de mieux vivre les deuils par la suite? On parlait, ça peut être autant de l'alimentation, mais de plein d'autres choses.
Mais évidemment, plus on est informé, mieux on peut faire face à la maladie. Ça brise aussi l'isolement, puis on la comprend mieux. Et quand on la comprend mieux, on prend probablement mieux aussi nos traitements, parce qu'on sait les impacts positifs que ça peut avoir. Évidemment, en parlant de deuil, je dirais peut-être pas au terme littéral, mais par exemple, je reviens avec mon histoire de greffe. T'sais. Depuis que je suis jeune, moi, je sais qu'éventuellement, un jour, j'aurais eu besoin d'une greffe. T'sais, on y pense. Ça ne veut pas dire que tu vas en avoir besoin, mais on sait que c'est là. Et quand le moment arrive, on y a pensé depuis 20 ans, 25 ans, qu'on sait que ça va arriver. Contrairement à d'autres personnes qui vont avoir une maladie subite, là, c'est un choc, ils doivent penser à l'après-greffe. Nous, on est déjà pas mal prêts par rapport à ça. Sinon, bon, il y a d'autres deuils. Évidemment, quand tu es plus malade, ben, des fois, il y a des gens, ben, tu peux peut-être faire moins de sport avec des amis, moins sortir, moins faire de choses comme ça. Mais je pense que pour avoir côtoyé aussi plusieurs personnes qui ont la fibrose kystique, ça nous fait développer un... Je pense qu'on est un peu plus fort psychologiquement
mm-hmm.
que bien des gens. On est prêt par rapport à ça. Puis je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais je pense qu'en faisant face à la maladie, on vieillit un peu plus vite. On est mature beaucoup plus rapidement. Et ça nous fait faire face à plusieurs situations auxquelles on réagit mieux que quelqu'un en général pourrait réagir.
Tu es d'accord avec ça, oui. Camille? Oui.
Oui, beaucoup.
J'avais envie, on parlait de diagnostic qui est bien sûr une étape plutôt importante dans le parcours de quelqu'un qui vit avec la fibrose kystique. On parle beaucoup et quand on va sur le site de Fibrose kystique Québec, là, c'est vraiment en gros bien souligné du dépistage néonatal de la fibrose kystique. En quoi c'est important, Renaud Robert?
Je pense que c'est essentiel. Toutes les provinces au Canada ont le dépistage natal, sauf
le Québec.
Exactement.
Oui.
Donc là, je pense qu'il y a un message à envoyer et je pense qu'il faut vraiment continuer la bataille. C'est très important parce que ce qu'on voit, c'est que plus on prend la maladie tôt, plus les traitements sont efficaces, ceux qui existent déjà, et plus la maladie peut être contrôlée tôt. Et on se rend compte que le cycle dont je vous parlais, infection-inflammation, on peut être capable de peut-être le retourner de bord si on le prend très, très, très tôt. Donc, c'est très important de faire ce diagnostic le plus tôt possible.
Quand vous dites retourner de bord, ça signifie qu'il soit peut-être que ça aille moins vite?
Ça aille moins vite et ou voire arrêter peut-être certains cycles, je dirais, d'exacerbation et au moins contrôler ou diminuer l'impact de cette infection et de cette retardée, je devrais dire.
Oui, parce que la fibrose kystique, c'est une maladie qui est héréditaire, qui est génétique. Les deux parents doivent être porteurs de ce gène-là.
C'est exact.
Oui. Et ce qui arrive, j'imagine, dans la plupart des cas, je pense que c'est ton cas, Camille, c'est une surprise un petit peu. On ne sait pas qu'on est porteur de ce gène-là.
La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie avant d'avoir, par exemple, un diagnostic de leur enfant. Et souvent, ça touche beaucoup plus de personnes qu'on pense dans la société qui ont un gène de la fibrose kystique.
Mm-hmm. Au Québec, je pense qu'il y a pas mal de gens touchés aussi par cette maladie-là.
Oui.
Ben, ouais. 1300, je le disais tout à l'heure, mais plus qu'ailleurs.
Mais quand on parle de porteur sain, je pense qu'on a une personne sur 25 mm-hmm. qui est porteur sain. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont la mutation, qui peuvent la transmettre. s'ils rencontrent une autre personne et ont des enfants, peuvent donner la maladie à, on va dire, dans 25 % des cas.
Mm-hmm. Et j'imagine, c'est une préoccupation, Tommy Richard, des adultes que vous côtoyez, qui ont envie de donner la vie, que ce soit des femmes ou des hommes, et qui se disent, ben moi, je suis porteur du gène, est-ce que je peux quand même avoir des enfants?
Évidemment, et en fait, la plupart des couples, quand il y a quelqu'un qui a la fibrose kystique, tout d'abord vont commencer par tester le conjoint ou la conjointe pour savoir si cette personne-là est porteuse du gène. Mais quand on parle d'avoir, de fonder une famille, qu'on a la fibrose kystique, il y a plusieurs autres enjeux qui entrent en ligne de compte. Juste le fait de procréer. Je pense, par exemple, pour les femmes, c'est environ à 40 % que plus de difficultés d'avoir un enfant. Et chez les hommes, c'est 95 % des hommes qui sont stériles, ouais, avec la fibrose kystique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant. Ils vont pouvoir l'avoir avec la fécondation in vitro. Mais c'est quand même des démarches, des fois, qui sont un peu plus difficiles pour le couple. Donc, c'est encore un support qu'ils ont besoin là-dedans. Et ben c'est ça. Donc, il y a plein de préoccupations qui entrent en ligne de compte, mais aussi le fait, si j'ai un enfant, est-ce que je vais mourir puis je vais laisser l'enfant par la suite? Là. Ouais. Donc, comme je disais, comme vous disiez plutôt, la fibrose kystique touche plusieurs organes, ouais, mais ça touche aussi, là, psychologiquement parlant, toute la vie, ça nous suit puis ça lâche pas. Là.
Et bien sûr, on n'aura pas eu le temps, en si peu de temps, de tout couvrir. Il nous reste peu de temps. Je vais vous laisser le mot de la fin. En fait, vous poser une question. Je vais commencer par Camille. Qu'est-ce que je te souhaite?
Moi, je pense que je souhaite vraiment qu'ils sont en cours de recherche pour le médicament remède. Et j'ai beaucoup d'espoir pour ça.
Ça donne la pression, ça, Renaud Robert?
C'est pas mal de pression, exactement, mais on va travailler pour ça, Camille. Et puis, on va continuer tout ce qu'on est déjà en train de faire. Et puis, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent dans le futur.
Tommy Richard, pour vous et tous les adultes, les 60 % d'adultes touchés par la maladie,
ben en fait, moi, ce que je pourrais souhaiter, en fait, c'est plutôt lancer un appel aux gens qui nous écoutent. C'est tellement important, le don d'organes. On en a besoin. Oui. Signez votre carte. Et une fois que vous avez signé, parlez-en à vos proches. C'est important aussi parce que les gens ne savent pas des fois que même si on a signé, la famille peut refuser après. Et oui, on souhaite vraiment que le médicament soit trouvé le plus rapidement possible, mais on aura toujours besoin quand même de ce don d'organes-là. Oui. Donc, c'est important. Signez, parlez-en. Et faites-en la promotion autour de vous. Là.
Ça peut vraiment sauver des vies.
Énormément.
Renaud Robert, chercheur et directeur du Centre de recherche translationnelle sur la fibrose kystique de l'Université McGill, Tommy Richard Leboeuf-McGregor, lui qui est coordonnateur de Vivre avec la fibrose kystique, et Camille Papineau-Moret, atteinte de fibrose kystique. Merci beaucoup de votre générosité, de votre temps. Et puis, salutations à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Rémi Hermoso à la mise en onde. C'était Marianne Paquette au micro. Je vous laisse quelques coordonnées: www.fibrosekystiquequebec.com pour plus de renseignements. Aussi www.cpafq.qc.ca, c'est Vivre avec la fibrose kystique. Je vous salue. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.